Bonjour, ceci est un bulletin d'alerte pour séquestration arbitraire ou disparition inquiétante. Que sont devenus Roselyne Bachelot et Éric Besson? Eux qui nous abreuvaient régulièrement de leurs idées lumineuses, plusieurs fois par jour, à la télé, à la radio, dans les journaux, ont brutalement disparu. Le temps de la campagne électorale, peut-être? En tout cas, sans eux et leurs judicieux conseils, la France a peur, comme aurait dit le regretté Jiquel. Alors, rendez-les-nous vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci.
Je suis technicienne à France Télécom Orange, cette maison très bien connue. Pour redorer son image de marque ou pour conforter la convivialité entre agents, France Télécom a souhaité fêter la journée de la femme et nous a donc invité à un petit déjeuner pour ce matin. Voyant que mes collègues sont toujours dans la déprime, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Donnez-moi votre avis. Je vous remercie.
Bonjour à tous les AMG d'Aix-en-Provence et des environs. Le repère du pays d'Aix se réunit tous les 2e et 4e mardis du mois au bar Le Festival en bas du cours Mirabeau à 19h30. Ce mardi 9 mars, à 5 jours du premier tour des élections régionales, nous avons choisi de débattre sur le thème « Les élections régionales, comment changer de politique ?» Au revoir.
Bonjour. Comment en Irak peut-on parler de démocratie alors qu'on a vidé ce pays de sa principale ressource, le pétrole? En effet, dans les 7 plus gros gisements, les 7 plus gros gisements ont été vendus pour 20 ans aux USA et à l'Angleterre, qui pensent pouvoir doubler, voire tripler l'extraction. Comme ça, dans 20 ans, ils ont épuisé ces gisements. Ce pays où les seules écoles qui marchent sont les écoles privées, où les médecins qui n'ont pas fui le pays se cachent, ce pays où plusieurs secteurs sont au FMI. Vivement la démocratie en Iran, qu'on fasse la même chose. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG. Alors dans le monde diplomatique de ce mois-ci, on peut voir que la situation économique est mauvaise pour plusieurs pays d'Europe, dont la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Irlande et la France. Tous ces pays prévoient des coupes budgétaires, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux en France, et même baisse des salaires en Grèce. Ça va même jusqu'à non-remplacement de 9 fonctionnaires sur 10 en Espagne. C'est donc la destruction programmée des services publics et des acquis au nom de cette rigueur. On a renfloué les banques, tandis que les États, eux, doivent se démerder. Et ce démantèlement des États-providence qui s'accélère fait penser à une stratégie du choc dont parle Naomi Klein. Les élites qui contrôlent la finance et la Commission européenne, qui contrôlent aussi le FMI, l'OMC et la Banque mondiale, ont laissé faire, voire même provoquer cette crise, peut-être. Nous devons donc, nous, peuple européen, nous opposer à ce recul sans précédent, en commençant par organiser une grève à l'échelle européenne, à une date commune. C'est la seule chose que ces élites craignent, et c'est ce que nous devons faire. Sud, la CNT, voire peut-être la CGT, doivent s'unir avec les syndicats européens pour lancer ce mouvement, et c'est la seule chose qui puisse les faire reculer. Voilà, à plus tout le monde.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe et merci pour votre audience. Je m'appelle Sylvie, j'entre en résistance pacifique, sans heurts, sans autre violence que celle qu'on m'inflige. Je vous donne rendez-vous demain matin, mardi 9 mars, devant le pôle emploi Masse de Ville 112, allée du Masse de Ville à Nîmes, où j'entame une grève de la faim. Grève de la faim parce que on me supprime le montant de mes allocations chômage pour défaut de carte d'identité nationale valide. Depuis le 31 janvier dernier, je n'ai vécu qu'avec 320 euros. Depuis, plus rien, aucune ressource, aucune aide, aucune écoute valable. Ce matin, on me fait obstruction, je ne peux voir le directeur de l'agence, je suis toujours dans la même situation, j'ai 50 ans bientôt, aurai-je un jour 51 ans? Donc je vous donne rendez-vous pour m'accompagner demain matin à 8h30 devant le pôle emploi de Nîmes, Nîmes dans le Gard. On a 25 cm de neige, alors c'est pas grave si vous voulez braver les intempéries, chose que le directeur de la NPE n'est apparemment pas capable de faire aujourd'hui pour me répondre. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de m'accompagner. Voilà, je suis complètement démunie et c'est en me montrant et en faisant une grève de la faim que je vais essayer de régler mon problème. Je vous remercie, Daniel. Merci vraiment pour votre émission qui me semble toujours très, 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 très intelligente. Au revoir.
Voilà, on a reçu ce message qui en dit long sur ce qu'il faudra bien appeler un jour l'élimination des superflus. Et il faut dire que le gouvernement actuel a beaucoup de savoir-faire en la matière. Alors, on a reçu, cela dit, quelques instants après, enfin, quelques heures après, un autre message de cette auditrice qui s'appelle Sylvie.
Rebonjour Daniel, je suis Sylvie, j'ai téléphoné ce matin, je me suis battue, j'ai passé la matinée au téléphone, j'ai expliqué ce que j'allais faire demain, à savoir me mettre en grève de la faim. Et résultat des courses, j'ai eu très très vite un coup de téléphone de monsieur le directeur du Pôle emploi qui m'a expliqué qu'on débloquait ma situation, c'est-à-dire qu'on va me rétablir 840 euros pour vivre depuis le 31 janvier jusqu'au 28 février et que à partir de un mois plus tard, c'est-à-dire le 28 mars, si je n'ai toujours pas des administrations ma carte d'identité, eh bien, ils me recouperont les vivres. Donc, je voulais juste dire que pour information aujourd'hui, on est vraiment obligé de décliner son identité nationale et française pour simplement avoir le droit de vivre. Merci beaucoup à vous.
Voilà, donc on ne perd pas toujours, mais on reviendra évidemment sur ces affaires de Pôle emploi très bientôt. Mais voyez ce qu'il faut faire si vous voulez bénéficier de vos droits. Il faut menacer, il faut faire des grèves de la faim, il faut supplier et s'humilier. C'est la solution, semble-t-il. Aujourd'hui, d'abord, je vous remercie pour tous ces messages, chers AMG, messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on continue notre voyage en Amérique centrale et après le Honduras, on va au Salvador. On va exactement dans la capitale du Salvador, San Salvador, pour voir un peu ce pays illustré par le film de Christian Poveda, La Vida Loca. Vous avez entendu parler de ce film, sans doute que vous l'avez vu, il a eu beaucoup de succès et c'est très bien. Un DVD sort ces jours-ci sur ce film magnifique de ce réalisateur, journaliste, documentariste qui, vous le savez, a été assassiné quelques jours avant la sortie de son film en France, dans des conditions qui ne sont pas entièrement élucidé aujourd'hui. Donc c'était une des raisons pour laquelle nous allions faire un tour à San Salvador, mais aussi pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce pays particulièrement violent. La mort est chez elle ici, dit-on, au Salvador, et rendre hommage ou essayer de comprendre qui a été le Oscar Romero, cet archevêque, l'archevêque de San Salvador, qui a été assassiné alors qu'il disait la messe il y a exactement, enfin quelques jours près, 30 années. Voilà notre voyage aujourd'hui, notre étape d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, je le répète.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Vu et entendu sur Aéroport Mayotte de samedi matin, les Maorais vont à l'île de Réunion pour trouver une vie meilleure parce que le SMIC là-bas n'est pas pareil comme chez eux. Le même phénomène s'est produit à Mayotte avec les Comoriens qui viennent en clandestinité. Et ce matin, on nous annonce qu'une barque a chaviré au large de Mayotte faisant 9 morts, donc 4 femmes et un bébé. Trouvez l'horreur. À bientôt. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Marc, je suis postier et donc le 1er mars, la Poste est devenue la Poste SA. Le 2 mars, le président Jean-Paul Bailly nous envoyait à chacun des postiers une petite carte nous annonçant qu'il avait fait son devoir et le nécessaire afin que notre entreprise réussisse à faire face à la concurrence. Le 3 mars, un agent du centre de tri du Madrier s'est suicidé. Donc il a laissé une lettre en disant que en partie c'était dû à son travail. Alors le tort qu'il a eu, c'est qu'il ne s'est pas suicidé sur son lieu de travail, il s'est suicidé je ne sais pas où. Donc bien sûr, l'entreprise va réussir à s'en sortir. Moi, je suis facteur, et je peux vous dire que je suis horrifié. Ce n'est pas à nous de mourir, ce sont eux qui font les mauvaises actions. Donc il faut que la peur change de côté. Donc salut à tous et puis courage.
Salut à tout le monde. On achève bien les anciens, surtout quand ils vont bien. Ici Radio La Sub, dans le Béarn, en direct de la Marpa, un lieu de vie de 20 personnes âgées qui bientôt pourrait être expulsé par les manigances d'un notable local pour créer son propre bébé EHPAD, un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. À la Marpa, une maison d'accueil rurale pour personnes âgées, on vit comme chez soi et on partage une vraie vie sociale en famille, parce que la déchéance n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ne pas conserver aujourd'hui ce qui fonctionne très bien? Pourquoi une poignée d'élus sous-informés en matière de vieillissement de la personne sacrifie-t-elle des résidents valides en agitant le spectre de la déchéance physique ou morale au profit d'un mouroir chic? Rendez-vous mercredi soir, 10 mars, à 20h, à la Maison pour tous de La Sub, dans le Béarn, pour contrer les fossoyeurs de la Marpa. Adi chat.
Une femme, un enfant. Il pleure, un mari, un père.
Antenne 2, 25 mars 1980.
Lui est mort victime de ces commandos de la folie qui tuent sans rémission les pauvres et les paysans. Ceux qui osent prétendre à une certaine justice, à une certaine égalité en ce petit État qui est la plus vieille république militaire de la planète et où, il faut le savoir, 2% des citoyens possèdent 60% des terres. C'est pour eux, les pauvres, les déshérités, que Mgr Oscar Arnolfo Romero, archevêque de San Salvador, se battait. Lorsqu'il venait célébrer, comme ici, il y a quelques jours, une messe de mariage, mariage de pauvres, il déclarait qu'il n'était pas dans le rôle de l'Église de décider l'heure de l'insurrection, mais il ajoutait que l'heure de la légitime violence du peuple avait sonné. Il se refusait aussi à confondre les excès perpétrés pour la défense d'un ordre social injuste et ceux commis pour l'amélioration du sort des opprimés. Mais aux yeux de cet ordre social injuste, il devenait insupportable le 23 mars dernier lorsqu'il demandait aux officiers et soldats de ne pas obéir aux ordres contraires à la loi de Dieu, c'est-à-dire ne pas tuer. Il avait là, dimanche dernier, signé lui-même son arrêt de mort. Quelques heures après cette déclaration, un commando l'a tué alors qu'il se préparait à célébrer une messe.
Mis ojos estarán abiertos, mes yeux seront ouverts, y mis oídos atentos y mis oreilles attentives a la oración que se haga en este lugar, a la prière qui se fera dans cet endroit. C'est une petite chapelle.
Fue asesinado de un carro en movimiento.
Il a été assassiné à partir d'une voiture qui traversait, qui passait sur la rue là.
Con un disparo directo mientras él estaba dando misa.
Donc c'était un tir, ils ont tiré directement pendant qu'il était en train de faire la messe. La porte était ouverte.
Es que es una capilla, no es una iglesia. Capilla es pequeño, ¿no?
Parce que c'est une petite chapelle, c'est pas une grande église.
Él oficiaba como era de rango, podía oficiar en varios lugares, pero esa vez estaba.
Donc lui, comme c'était, il était très haut placé dans l'église, il officiait ailleurs, mais là il était venu exceptionnellement ici.
Dans la chapelle de cet hôpital.
Ya hace muchos años.
Ça fait longtemps. Ouais.
Non, nunca se supo.
On n'a jamais su qui.
Nunca se supo, se pudo saber quién disparó, pero quién dio la orden.
Alors on a pu savoir qui avait tiré, mais qui a donné l'ordre de l'assassiner, de le tuer, ça, on ne sait pas.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, avec Antoine Chao, San Salvador, Vida Loca.
Flight number 2, arriving from...
Cancer.
Ah, c'est le cancer ici, c'est des gens qui sont atteints du cancer.
Cancer, que no tienen dinero para curarse, aquí los atienden.
C'est des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner, donc ici ils sont pris en charge.
Fase terminal.
Fase terminale.
Cuando sucedió la tragedia de Monseñor Romero.
Cuando ha eu lieu la tragedia
de
Monseñor.
Allí estaba la camioneta.
C'était une camionnette qui était là.
Y había un francotirador.
Et il y avait un tireur d'élite.
Y las puertas estaban abiertas.
Et les portes étaient ouvertes.
Desde acá disparó.
Et de là, ils ont tiré.
Y le pegó en el corazón.
Il a tiré dans le cœur.
Estaba lleno dentro la capilla y aquí
la
muchos
chapelle
carros.
Était pleine. Et là, il y avait beaucoup de voitures.
Supuestamente, el hechor se lo llevó otro vehículo que lo estaba esperando.
Alors semble-t-il, le tueur a été emmené par une autre voiture qui l'attendait plus loin.
Cuando se llena de carros, cierran el portón.
Parce que quand c'est plein, ils ferment la porte ici, comme maintenant, la porte est fermée.
Así como ahora, sí. Gracias.
Sept homicides chaque jour. Oh, Salvador, le pays le plus violent d'Amérique latine. Cette violence, illustrée par les conflits, des gangs, des fameux maras, cette violence a une histoire très ancienne. Il faut sans doute la faire remonter à la conquête, très probablement. Mais elle a une histoire aussi plus récente. Plus récente, qui est toujours le même conflit entre les propriétaires qui ne veulent rien lâcher et les paysans, les gens qui essayent de vivre et de survivre dans des conditions souvent très difficiles, mais avec toujours des affrontements extraordinairement violents. La révolte paysanne de 1932, par exemple, qui fit entre 20 et 30 000 morts parmi les paysans. Toute l'histoire de ce petit pays de 6 à 7 millions d'habitants est jalonnée ainsi de répression dès que le peuple arrive à un minimum de droits, un minimum de démocratie, un minimum d'existence, disons tout simplement. La répression est terrible. Depuis quelques mois, depuis le milieu de 2009, un gouvernement de gauche, est passé au pouvoir au Salvador avec vraiment un très grand chantier devant soi. Mais pendant 20 ans, ça a été une droite dure qui était au pouvoir dans ce pays. Et la droite est chez elle dans ce pays, et la mort est chez elle dans ce pays. On vient d'évoquer rapidement Oscar Romero, cet archevêque qui est la figure centrale, la référence dans ce pays, et bien au-delà, bien évidemment, qui on va découvrir un peu plus de choses sur lui, et on va voir aussi comment, à l'issue, à la fin de cette longue guerre civile qui a ensanglanté ce pays, faisant entre 70 000 et 80 000 morts entre la fin des années 70 et jusqu'en 1992, comment à l'autre bout de cette longue guerre civile, horriblement réprimée par des escadrons de la mort, soutenue souvent par les États-Unis, on aura un autre assassinat de jésuites, d'autres prêtres qui auront eu le tort de se mêler de ce qui ne les regarde pas selon une certaine église, selon une certaine théologie qui voudrait que les prêtres et l'église ne se mêlent pas des choses publiques, des choses de la justice, des choses politiques. Or, vous le savez bien qu'en Amérique latine, il y a une église qu'on appelle la théologie de la libération qui est à l'intérieur de l'église catholique et depuis de longues années mène un combat auprès des pauvres. Ce qui fut le cas de Monseigneur Romero, mais ça n'était pas ses idées quand il fut nommé archevêque de San Salvador. On va suivre un peu son histoire, l'histoire de ce pays qui pourrait se tout entière tenir dans la parole d'un autre évêque brésilien, progressiste aussi, dont Helder Camara, qui disait « Tant que je demandais aux gens d'aider les pauvres, on disait que j'étais un saint, mais lorsque j'ai demandé pourquoi y a-t-il tant de pauvreté, on m'a traité de communiste. » C'est là-bas que j'y suis, jusqu'à 16h, San Salvador, Vida Loca.
Hey. Es el tiburón que va buscando.
C'est le requin qui cherche.
Es el tiburón que nunca duerme.
C'est le requin qui jamais ne dort.
Es el tiburón que va sellando.
C'est le requin qui espionne.
Es el tiburón de mala suerte.
C'est le requin de mauvaise augure. On va le cogner fort, sans hésitation. Dans l'union est notre force et notre salut. Et dis-lui bien que sur cette plage, on ne parle qu'espagnol. Qu'il va venir comme une fort. Ne vous endormez pas, mes frères, restez vigilants. Cogne bien fort pour qu'il apprenne qu'ici, il y a de l'honneur. Qu'il sache que dans les Caraïbes, la crevette ne dort pas. Si tu le vois venir, cogne bien fort pour qu'il ne dévore pas notre sœur El Salvador. Et après, nous travaillerons à la reconstruction.
On est juste en face d'un jardin de roses. C'est juste l'endroit où ils ont été assassinés le 16 novembre, juste ici.
Les six prêtres jésuites.
Ils ont été sortis de leur chambre le soir. Et après, ils l'ont assassiné dans l'endroit, ce jardin.
Il y a une plaque avec les noms Ignacio Ellacuría, Amando López, Joaquín López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, le 16 novembre 1989.
Plus les deux femmes qui étaient à leur service, qui sont oubliées sur cette plaque.
Voilà, on est à l'université centra-américaine de San Salvador, un îlot de calme, de verdure, de repos dans cette ville très très tendue. Je disais ici la mort est chez elle, j'exagère à peine. C'est vrai qu'en arrivant dans cette ville, on sent tout de suite la tension, une peur rampante, à en juger au moins par toutes les gardes devant toutes les portes, les stations-service, les banques, absolument partout, avec des prêts à défourailler, tant il est vrai que cette ville et ce pays a beaucoup de mal face à ces gangs qui sème la terreur dans la ville, avec des histoires de raquettes, des histoires de violences insensées, gratuites, qui dépassent l'entendement et qui dépassent largement les forces de police, puisque pendant 20 ans, on a essayé la méthode dure, la méthode répressive, et ça n'a fait qu'empirer les choses. Le nouveau gouvernement a bien du pain sur la planche pour essayer de résoudre une histoire très ancienne, qui est celle de la violence dans cette région du monde, et qui est multipliée par la violence aussi venue des États-Unis. On évoquera demain l'histoire des Maras, mais là, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans cette université centra-américaine, université catholique, tenue par des prêtres jésuites, parmi lesquels ces six prêtres qui ont été assassinés, et ce qui marque un épisode de cette longue guerre civile qui s'est déroulée dans ce pays. Une guerre civile entre le front Farabundo Martí pour la libération nationale, vous vous souvenez, FMLN, qui est au pouvoir aujourd'hui, mais dans une version, disons, beaucoup plus soft. Donc cette guérilla FMLN qui luttait contre un pouvoir de droite et d'extrême droite particulièrement sauvage et particulièrement barbare, mais encadré par des militaires salvadoriens, mais qui avaient été formés à la fameuse école des Amériques que nous avons évoquée, qui était jadis au Panama et qui maintenant est en Géorgie. Elle existe toujours. Il y a régulièrement des manifestations pour la fermeture de cette école, et la répression au cours de ces années dans ce pays a été soutenue par les États-Unis à travers des fonds carrément, des soutiens divers et variés, la présence d'agents de la CIA. Bref, tout ça ne fait plus aucune espèce de doute aujourd'hui et les résultats ont été ceux-là pendant que le monde regardait ailleurs. Dans ces années 80, se préoccupait de ce qui se passait en Pologne, par exemple, se préoccupait ensuite de ce qui s'est passé, évidemment, avec la chute du mur de Berlin, s'inquiétait, se mobilisait contre ce totalitarisme soviétique à l'agonie, tandis que, pendant ce temps-là, dans son arrière-cour, les États-Unis se rendaient complices, sinon acteurs, et pour beaucoup d'historiens et d'observateurs, entièrement acteurs de cette répression contre la lutte des gens ordinaires, la plupart d'ailleurs des paysans, qui luttaient pour leur émancipation et leurs droits minimums. Donc nous sommes dans cette université, c'est un endroit, je le répète, agréable comme tout, où là on trouve un jardin avec des rosiers rouges.
Ça, c'est une surprise, hein, Monseigneur Romero, que je vois là, devant moi. C'est une statue, c'est pas lui vraiment, puisqu'il est mort déjà depuis pas mal de temps, mais c'est une statue qui est sur ce terre-plein, herbu, très frais, de fleurs, d'herbes, de plantes exotiques. C'est très beau dans cette université de San Salvador, capitale de El Salvador. Mais c'est curieux parce que c'est un buste, sculpture quoi, en bronze, avec des lunettes. Avec des lunettes comme on en porte aujourd'hui. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un buste avec des lunettes. Mais sur la route, j'ai vu qu'il y avait des gars qui vendent des poteries, des personnages, des nains, des choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait son buste. Le buste de Monseigneur Romero avec des lunettes aussi. Donc c'est la particularité, c'est les lunettes. Et puis, c'est qu'il va devenir un saint. J'ai l'impression qu'il va être canonisé. Alors que il est dans le film Chomsky et compagnie, réalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet en vente partout. Son histoire est celle des jésuites, dont on va essayer d'en savoir plus. Ici, sert à Chomsky de point de comparaison avec d'autres meurtres ailleurs dans le monde et qui ont reçu une couverture médiatique beaucoup plus importante que celle-ci. Pour la raison que derrière le meurtre de Monseigneur Romero, il y avait, derrière les tueurs, il y avait la présence plus ou moins occulte des États-Unis, alors qu'au même moment était assassiné en Pologne Monseigneur Popieluszko, qui était un opposant lui aussi, qui était un dissident lui aussi, un meurtre attribué au service du gouvernement polonais, qui était à l'époque communiste, et donc on avait fait grand cas, à juste titre d'ailleurs, de ce crime. Alors qu'au même moment, l'assassinat de Monseigneur Romero, qui est là devant nous, faisait le dixième, même pas, d'emplacement, enfin de couverture dans la presse. Voilà ce que représente Romero pour nous. On va en savoir plus.
Picture over there is a massacre.
Et sur le mur là, ce dessin symbolise les massacres des années 80 au Salvador.
Noam Chomsky.
On voit l'ange de la mort et l'archevêque Romero qui est assassiné pendant la messe. Puis aussi six intellectuels, des jésuites abattus d'une balle dans la tête en novembre 1981. Ils ont été abattus par des bataillons d'élite armés, entraînés et dirigés par les États-Unis.
Si une chose comme ça avait lieu en Europe de l'Est, par exemple, tout le monde l'aurait su dans le monde. On aurait même peut-être eu une guerre nucléaire, comme ça a eu lieu dans le précaré américain. La plupart des gens ne comprendraient même pas la signification de ce tableau. Dans cette décennie, plus de 70 000 personnes sont mortes par la police de l'État et aussi par des milices armées par les États-Unis.
Sala des martyrs. La salle des martyrs. Vie et résurrection de Monseigneur Romero, une peinture de Benjamin Cagnas.
C'est excellent. Excellent, ouais. Regarde, espèce de petit curé qui se frotte les mains, tout gêné, l'autre tout gras qui se tourne vers Jésus-Christ avec ses petites pattes un peu ridicules, l'autre le pape dans un coin qui n'y peut rien. C'est une église très très critique.
Donc le pape qui caresse un peu le casque du militaire, quoi.
Un petit peu. Alors la salle des martyrs, ça.
Pertenencias del padre Rutilio Grande.
Ici, alors c'est des choses qui appartenaient au père Rutilio Grande.
Que no no es de los que fueron masacrados acá, pero sí fue un padre que fue asesinado por los escuadrones de la muerte.
Alors lui, il ne fait pas partie des six martyrs qui ont été assassinés ici par les militaires, mais ça a été aussi une victime des escadrons de la mort, un prêtre victime des escadrons de la mort.
Fue asesinado el 12 de marzo del 77.
Assassiné le 12 mars 77.
Piedras y pañuelo de, con la sangre de Rutilio Grande.
Des pierres et le mouchoir taché de sang du père Rutilio Grande.
Su Biblia.
Sa Bible.
Et là, on expose la chemise du prêtre avec des trous dans la chemise situés dans les reins du père Rutilio Grande. Qui l'a tué?
Los escuadrones de la muerte, los paramilitares.
Les escadrons de la mort, les paramilitaires. Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il racontait ce Rutilio Grande?
Il était un activiste très fort de la théologie de la libération.
C'était un militant de la théologie.
Il était engagé avec la révolution dans le pays.
Voilà, un prêtre de la théologie de la libération, je disais en commençant. Vous connaissez cette tendance. C'est intéressant de penser à ça au moment où on voit des laïcs extrêmement fervents se dresser dans notre beau pays face au voile, à la burqa, etc. Parmi eux, il y a des gens tout à fait de gauche et progressistes qui se réclament de cette laïcité, fustigeant toutes les formes de religion. Sauf qu'en Amérique latine, les progressistes, les gens de gauche, souvent font avec l'Église ou font à partir de l'Église, à partir des évangiles. Et la théologie de la libération a fait une sorte de pont entre les évangiles et le marxisme, très souvent au Brésil, dans un certain nombre de pays de lutte. Il y a un certain léger déclin, peut-être aujourd'hui, de cette théologie de la libération. Vous imaginez bien que tout ça a fait l'objet de la répression, enfin du moins de la contention par le Vatican de cette tendance politique. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, Oscar Romero, qui est encore une fois une grande figure, non seulement pour le Salvador, mais pour toute l'Amérique latine, est en voie de canonisation à condition que le côté politique de son action et de sa vie ne soit pas mis en avant, c'est-à-dire un saint qui serait édulcoré, en somme, mais dépossédé de son message politique, et ce ne serait que son martyr qui serait mis en avant dans cette canonisation. Alors ça nous semble, à nous, Français, tout ça, des choses bien lointaines, mais ça a beaucoup, beaucoup d'importance, vous vous en doutez bien, en Amérique latine et pour ce petit pays.
Une sorte de martyr, par exemple le père Guadalupe Carney, assassiné en Honduras en 1983.
Voilà, le père Guadalupe Carney qui s'est fait descendre, lui, donc au Honduras, dans ce département de Colón.
Donc il a été arrêté par la police, par les militaires en Honduras, et donc il aurait été tué par ces mêmes militaires, jeté d'un hélicoptère. C'est une des versions.
C'est brutal, tout ça. Hein,
sous les draps blancs, des corps mutilés, criblés de balles, ce sont ceux du recteur et de cinq autres jésuites responsables de l'université catholique de San Salvador, leur cuisinière et de sa fille de 15 ans.
FR3, 16 novembre 1989.
Assassinés, torturés sauvagement ce matin. Les auteurs de ce massacre, une trentaine de militaires salvadoriens selon des témoins. Depuis longtemps, l'université et ses enseignants étaient accusés par l'extrême droite d'avoir des sympathies de gauche. Parallèlement, depuis hier soir, l'armée poursuit sa contre-offensive contre les positions tenues par le front Farabundo Martí dans la capitale salvadorienne.
une nuit de combat ininterrompue et depuis ce matin, pilonnage aérien systématique des positions rebelles, surtout dans les quartiers nord-est de la ville, des quartiers populaires.
Quelle mise en scène! Là, c'est les jésuites, les 6 jésuites qui ont été abattus. Et c'est une drôle de mise en scène assez macabre de leurs vêtements. Alors, on voit leurs vêtements arrachés, le caleçon taché, le peignoir déchiré, l'autre peignoir troué, le pantalon, etc. Quoi, c'est leur reste. Ça, c'est très bouleversant. C'est 2 livres qui sont déchirés par des balles. Ça, c'est un dictionnaire. C'est du grec à l'anglais. C'est très, très savant, avec cette balle qui a arraché. C'est pas mal, hein, comme si on cherche une image de la barbarie, là, on est servi.
Porque ellos tienen sus dormitorios aquí, en la universidad.
Donc, les prêtres, ils étaient logés ici.
Viene el ejército.
Donc, l'armée arrive.
Elle los saca de sus dormitorios.
Elle les sort de leur logement.
Los asesina en el jardín, enfrente.
L'armée assassine les prêtres dans le jardin, en face de leur logement.
Y luego incendian sus habitaciones.
Et après, ils ont incendié leur logement, leur chambre.
Dejan material del FMLN tratando de inculpar al frente.
Et ils laissent sur place des indices pour faire accuser le FMLN, le Front Farabundo Martí.
Y aquí lo que se ven son libros, restos de lo que dejó el fuego.
Et là, il y a quelques restes de l'incendie.
Y una fotografía de Monseñor Romero.
Con une photographie de Monseñor
Romero. Una bala del lado del corazón, que es un symbolisme, un mensaje que también dejan los militares.
Avec une balle qui a frappé le cœur du tableau de Romero. Ah! Que mi sangre sea semilla, que mon sang soit une graine de liberté, semilla de libertad, y la señal de que la esperanza será pronto una realidad, et le signal que l'espérance sera bientôt une réalité. Une homélie du 16 mars 1980.
Il y avait, jusque-là, il y avait des hommes courageux.
Aquí puedes ver un croquis del lugar, de la universidad. ¿Cómo se dio la operación? De asalto.
Il y a un plan de l'université avec le détail de l'attaque militaire.
Fuerzas del batallón Atlacat, puedes ver
les différents bataillons qui avaient pris position autour de cette université, il y en avait partout.
Los miembros del batallón Atlacat fueron los responsables del asesinato.
Donc les membres du bataillon Atlacat sont les responsables de l'assassinat des prêtres jésuites.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bataillons. De l'armée qui prend pour assaut la université.
Donc qui prennent d'assaut l'université.
Ouais. C'était dans le contexte de la offensive finale de l'FMLN.
Ouais, c'était dans le cadre de l'offensive finale du FMLN.
C'était une opération militaire qui avait pour but de faire sentir la force militaire du front. Donc, pour oublier la négociation, la sortie négociée du conflit. Il y avait des attaques de guérilla à la capitale.
Et ces prêtres étaient accusés par le gouvernement d'être des alliés du front.
Oui, mais le rôle plus important, c'était les acteurs principaux qui cherchaient une solution négociée du conflit. Et l'armée, elle était en contre.
Pas de discussion. D'accord. L'armée ne voulait aucune discussion et eux voulaient une discussion.
Mais finalement, la massacre a donné la force nécessaire pour l'accord de paix signé en 1992.
Ce massacre a permis l'accord de paix.
A aidé beaucoup pour faire marcher le processus de négociation.
C'est ça.
Il s'est converti en parti politique. 19 ans après, ils ont gagné, ils sont arrivés au pouvoir.
C'est-à-dire que cette longue guerre civile de 12 ans a été suivie de gouvernements de droite et d'extrême droite pendant 19 ans.
Ouais.
Et là, cette année, 2009, il y a un gouvernement de gauche modérée qui a pris le pouvoir au Salvador.
C'est ça.
Là, il y a des choses qui se retournent dans les têtes en voyant ça, en voyant ces vêtements d'évêques, ces mitres d'évêques, ces calottes de calotins. On pense tout de suite à l'Inquisition, on pense à l'horreur catholique, l'horreur religieuse. Eh bien non, il y a des gars qui sont allés à l'inverse de ça. Pas nombreux, mais qui sont allés à contre-courant.
Tout ça, c'est des choses qui ont appartenu à Monseigneur Romero.
Si me matan, resucitare en mi pueblo.
Si on me tue, je ressusciterai en mon peuple.
C'est ça, il a été abattu pendant la messe. Hein.
Romero, c'était en 80.
Au début
des conflits armés.
Et les jésuites, c'est à la fin.
À la fin. 9 ans après. Romero, à sa jeunesse, il était plutôt de droite, qui défendait les causes de la droite du
les
pays.
Les causes de la droite, oui, les intérêts de la droite.
Les intérêts de la droite. Et après, pendant le temps qu'il a
exercé,
il a connu les problèmes du pays, del pueblo, il a changé complètement sa façon de penser. Il a pris la cause des pauvres comme une cause personnelle.
C'était le Zelaya des curés.
Bête noire de la droite salvadorienne, accusée par elle de mélanger religion et politique, Monseigneur Romero proclame que les morts de l'extrême gauche ont bien leur place ici, au milieu des applaudissements du peuple.
TF1, 20 mars 1980.
Monseigneur, il semble que vous faites une différence entre la violence de la droite et celle de la gauche.
Est-ce certo ou non? Quelle différence
hay? Esa diferencia no la hago yo, ya la hizo Medellín.
Ce n'est pas moi, c'est la conférence de Medellín qui a reconnu cette différence.
Que está provocando la cólera del pueblo.
Il y a d'un côté une violence institutionnalisée qui provoque la colère du peuple, celle de la droite qui veut maintenir ses privilèges. Et puis il y a les opprimés qui réagissent et on les traite de gauchistes, mais c'est finalement la droite la plus coupable.
Mientras exista esta de la derecha y por eso esta es la más culpable.
Mais les réformes engagées par la junte, vous les critiquez? Le grand péché de ces réformes, qui sont a priori favorables au peuple, c'est d'être imposé et inspiré par l'impérialisme américain.
El proyecto del gobierno también muy influenciado de imperialismo. La influencia yanqui es evidente.
En fin de compte, on n'a pas tenu compte des projets élaborés par les organisations appelées de gauche, mais qui sont tout simplement populaires.
Que llaman ellos de izquierda, pero que son del pueblo.
Revolucionarias.
Revolucionarias.
Évidemment qu'en parlant comme il le fait, cet archevêque, c'est-à-dire une personnalité forte et influente et décisive dans un pays comme celui-là, ne peut que susciter la rage des oligarques en place, des 10 familles qui tiennent ce pays et de ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire une armée particulièrement radicale, de droite, d'extrême droite, soutenue encore une fois par les États-Unis, d'abord par Jimmy Carter et ensuite évidemment par Reagan, vraiment d'une façon à peine dissimulée.
Massacre de El Mozote, le massacre de El Mozote, 10 décembre 1980.
Una de las masacres más simbólicas se dio en un pequeño pueblo en el oriente del país.
Alors, le massacre d'El Mozote est un massacre des plus symboliques qui a eu lieu dans un village.
Ordre direct des Estados Unidos.
Donc là, c'était des ordres donnés directement depuis les États-Unis.
Operaciones llamadas Tierra Arrasada.
Donc dans des opérations qu'ils appelaient Terre Brûlée.
Ellos lo que buscaban era eliminar toda la población civil.
Ils cherchaient à éliminer toute la population civile.
Era considerada el soporte de la guerrilla.
Qui était considéré comme un support à la guérilla, favorable à la guérilla.
Ellos arriban a esta población. El ejército reúne a todos los habitantes diciendo que la Cruz Roja va a dar ayudas.
Donc les militaires arrivent dans ce village et annoncent que la Croix-Rouge va venir apporter de l'aide.
Los reúnen en la iglesia.
Ils sont réunis dans l'église.
Y un día después empiezan a formarlos en fila et a masacrarlos.
Et le lendemain, ils les mettent en file et les massacrent.
Violan las mujeres antes de matarlas.
Ils violent les femmes avant de les tuer.
Y los niños pequeños los lanzan al aire para esperarlos con las bayonetas de los fusiles y esa es la forma como asesinan los niños.
Et les enfants, ils les lancent en l'air pour les transpercer de leurs baïonnettes. C'est la façon dont ils assassinent les enfants.
Matan más de 1000 personas en un día.
Ils massacrent plus de 1000 personnes en une journée.
Ça, c'était le massacre de El Mozote dont tu parles.
Si.
C'est ça.
C'était
dans le département de Morazan. Et c'est le bataillon Atlacatl. 1000 victimes. On considère que ces massacres ont été perpétrés sous la responsabilité des États-Unis.
Les États-Unis étaient le pays avec $1 million par jour, plus des entraînements spéciaux pour contre-révolutionnaires. Ils ont commencé dans le Mozote.
Là, on avance un chiffre. Ça, c'est là ce qu'on est en train de regarder dans ce petit musée de cette université dédiée aux martyrs des massacres au Salvador. Hein, un petit...
En mémoire des massacres au Salvador.
Au Salvador, entre 1974 et 1991. Et là, on estime le total à 10 000 victimes.
227 massacres de population civile dans de différents villages. Que ça donne presque 10 000 victimes civiles.
Les massacres furent commis par l'armée, les bataillons d'infanterie de réaction immédiate, les BIRI, la garde nationale, la police fiscale, la police nationale, les défenses civiles et les escadrons de la mort.
Il faut préserver la mémoire historique du pays. Sinon, on va revenir au problème du passé. Le fondateur du parti Arena, qui a gouverné le pays pendant 20 ans, c'était le chef des Escuadrones de la Muerte. L'hymne, la marche du parti, dit « El Salvador sera la tumba donde los rojos morirán ».
Le Salvador sera la tombe où les rouges mourront.
Il y a ici, dans cette ville, un monument au fondateur du parti. Il est le responsable de la mort de Monseigneur Romero, Roberto Dawinson. La droite dans le pays rend culte encore à ce personnage. À l'Assemblée nationale, on a encore la majorité, elle est de droite encore.
Mais pour revenir au massacre et à l'assassinat de ces jésuites et à l'assassinat de Monseigneur Romero, ce qui n'est pas très clair quand même dans les esprits, surtout le nôtre, en Europe et en France notamment, c'est la présence des États-Unis dans cette affaire.
Pour les États-Unis, pour Ronald Reagan, le Salvador c'était très très symbolique parce que la révolution venait de gagner, d'arriver au pouvoir au Nicaragua. Et il y avait un mouvement très très fort au Salvador, un mouvement révolutionnaire. Il ne fallait pas le laisser passer ici. Et les États-Unis avaient un rôle très très important pour lutter contre les guérillas.
Et pendant ce temps-là, on assistait à la chute du mur de Berlin, on applaudissait la fin du communisme, c'était la liberté qui commençait, alors qu'ici, on massacrait collectivement jusqu'en 92, donc. Et ça, c'est pas passé dans l'opinion mondiale. Ça fait pas partie des choses qui sont dans l'opinion mondiale.
Le FMLN, il n'était pas catalogué comme un mouvement communiste qui luttait pour établir la démocratie dans le pays et qui a été reconnu comme ça par le gouvernement de François Mitterrand. L'épouse de François Mitterrand, elle a visité le chef du front dans les montagnes ici. Ça a aidé beaucoup à la lutte révolutionnaire dans le pays parce qu'après ça, on a reçu une reconnaissance internationale parce qu'avant, ils étaient nommés par les États-Unis comme des terroristes.
Révolution, ô muerte, venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará.
grito de progreso y dignidad, revolución, o muerte venceremos, revolución, o muerte venceremos.
100 000 morts, cette guerre civile au Salvador entre 1978 et 1992, 100 000 morts. Là, on vient d'entendre un chant du FMLN, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, et un témoin de premier rang, c'est John Sobrino, qui est un prêtre jésuite, qui est toujours à l'université centre-américaine de San Salvador, qui enseigne et qui était parmi les jésuites qui ont été assassinés le 16 novembre 1989. Parmi, c'est-à-dire qu'ils vivaient en leur compagnie, c'était un des jésuites. Il se trouvait que par chance et par hasard, il n'était pas là ce jour-là. Il nous raconte longuement ce qui s'est passé et il nous donne quelques précisions encore.
Monseigneur Romero captó muy pronto que amar a la gente pobre.
Il a très vite compris qu'aimer les gens pauvres, défendre l'opprimé,
lleva a problemas graves.
Est très dangereux.
Ir por esa línea le acarreó conflictos graves con los obispos del país. Con
la choisir de cette voie lui a causé des conflits avec l'évêque, avec les évêques du pays.
Con el Vaticano.
Avec le Vatican, bien entendu.
Pablo II fue muy duro.
Avec Jean-Paul II, ça a été très dur.
Él sintió muy pronto que por ser obispo así, encontró que los poderes civiles del ejército...
Il a très vite compris aussi que les pouvoirs civils, militaires, la presse...
Fue increíble. O sea, las mentiras, calumnias,
difamaciones... Ça, c'était incroyable. Les calomnies, les mensonges qui ont été diffusés...
Monseñor Romero vende su alma al diablo.
Un journal a sorti ce titre. Monseñor Romero vend son âme au diable.
El conflicto era evidente, ¿verdad?
Le conflit était évident.
Él sabía eso. A medida que se acercaban su muerte real, empezó a tener amenazas más directas.
À l'approche de sa mort, il a commencé à avoir des menaces plus directes.
Y entonces, el domingo 23 de marzo, domingo,
le dimanche 22
mars, en catedral tuvo una famosa homilía.
Il a eu ce jour-là une homélie très fameuse,
la más conocida,
la plus connue peut-être.
Y me quiero dirigir a los hombres del ejército.
Je veux parler aux militaires,
y a las bases de la policía y la Guardia Nacional.
À la police et aux gardes nationaux.
Hermanos.
Mes frères.
Son de nuestro mismo pueblo. Todos somos del mismo.
Nous sommes tous du même peuple.
Queridos hermanos.
Chers frères.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército.
Je voudrais faire un appel très spécial aux hommes de l'armée.
A las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles.
De la Garde Nationale, de la police et des casernes.
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo.
Mes frères, vous êtes de notre
même
peuple. Matan
a sus mismos hermanos campesinos.
Vous tuez vos propres frères paysans.
Y ante una orden de matar
que dé
un hombre,
que donne un homme,
debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
C'est la loi de Dieu qui interdit de tuer qui doit prévaloir.
Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
Aucun soldat n'est obligé d'obéir à une loi qui va à l'encontre de celle de Dieu.
Una ley inmoral.
Une loi immorale.
Nadie tiene que cumplirla.
Personne ne doit l'appliquer.
Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas.
Nous voulons que le gouvernement comprenne sérieusement
si van teñidas con tanta
que les réformes
sangre.
Ne servent à rien si elles sont tachées d'autant de sang.
Que
En nombre de Dios, pues.
Au nom de Dieu.
Y en nombre de este sufrido pueblo.
Y au nom de ce peuple qui
cuyos souffre. Lamentos suben hasta el cielo
et
cada día
pleurs,
más.
Tumultueux montent chaque jour plus nombreux jusqu'au ciel.
Les suplico,
je vous demande.
Les ruego,
je vous supplie.
Les
je vous
ordeno,
prie. Je vous ordonne.
En nombre de Dios,
au nom de Dieu.
Cesse la represión.
D'arrêter la répression. Laisse vivre. Je vous demande. Laisse ruego.
Laisse ordonne.
Je vous ordonne.
En nombre de Dios,
au nom de Dieu.
Cesse la répression.
Cessez la répression.
Et l'applauso fue increíble.
Et l'applaudissement a été incroyable.
Al día siguiente, lo mataron. Un tiro.
Une balle, une seule balle, oui. Il est mort.
Toute l'ambiguïté habituelle et, oh, qui est réputée être celle des jésuites. Mais là, par exemple, on a une affiche qui ne laisse pas de place au doute sur l'anniversaire du massacre des jésuites et des femmes qui étaient avec eux, qui étaient leurs servantes, deux femmes qui étaient avec eux. Là, il y a une affiche qui laisse place à aucun doute. Souvenons-nous, remember, 16 novembre 1989, anniversaire, et qu'est-ce qu'on voit ? Des bottes militaires qui écrasent des fleurs rouges. Ça dit bien ce que ça veut dire, des bottes militaires qui écrasent des fleurs rouges. Là, on est dans l'imagerie révolutionnaire, les bottes qui marchent dans le sang des ouvriers, des prolétaires, du rouge en tout cas. Là, on a une autre phrase qui est quand même assez forte de la part du père Oscar Romero, qui dit
« Hay que cambiar de raíz todo el sistema. Il faut changer les racines de tout le système. »
C'est ça. Ça, c'est une phrase de Ben Saïd, de Daniel Ben Saïd. C'est-à-dire, c'est vraiment une phrase d'anticapitaliste. Mais, d'autre part, il y a toute une commémoration des mêmes martyrs, des mêmes jésuites et du même père Romero, qui est gentil, il faut être gentil, il faut la paix, il faut la liberté, il faut la vérité. Et puis voilà, soyons gentils entre nous et aimons-nous. Il y a tout un côté comme ça, gentil, possible à récupérer, le martyr, l'émotion. Et puis il y a tout le côté réflexion, qu'on peut tout à fait baptiser de politique, mais qu'on peut édulcorer si on veut. Là, il y a une double face.
Alors, il y a une affiche de Monseigneur Romero qui dit « Este pueblo aprenderá a sonreír, ce peuple apprendra à sourire, ser verdaderamente alegre, à être vraiment joyeux, cuando se realice una verdadera transformación, quand se réalisera une véritable transformation. Ouais, » 16 décembre 79.
Une véritable transformation, d'autres appellent ça la révolution.
Voilà, c'est changer les racines de tout le système.
Voilà.
Et l'arcebispo, le chef,
l'archevêque
ouais. de l'Église catholique au Salvador à l'époque.
Voilà, dernier discours, homélie du père Romero avant, à la veille de sa mort assassinée. C'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à tous, merci à Carlos Ventura, montage Agnès Lebot, Antoine Chao et John Santura. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais, Alain Gadan, Coyen Nguyen et Raphaël Moutère de réaliser cette émission. Céline Rouzet, quant à elle, attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.